Bien, mais monsieur le préfet, nous sommes très honorés et très heureux de votre visite. Comme vous le savez sans doute, d'après nos statuts, vous êtes académicien. Mais
je ne le suis pas que de votre académie.
Parfait, nous en félicitons. Donc vous êtes membre de droit de l'académie, et vous êtes donc ici chez vous.
Merci.
Voilà. Et au nom de l'ensemble des membres et à mon nom personnel, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous portez à notre institution et également vous souhaiter pleine réussite dans les chantiers que vous avez engagés dans notre région. Voilà, vous me permettrez de vous présenter quelques informations sur l'origine et la dynamique actuelle de notre académie. Les académies que l'on qualifie de modernes ont émergé en Italie à la fin du XVIe siècle. C'était des académies de ville, comme Bologne, ou Padoue, où Galilée fut membre de l'académie. Et ce modèle a inspiré en France la création d'académies nationales, puisque furent fondées au XVIIe siècle, en 1635, l'Académie française, et en 1636, l'Académie du Sud. Et à partir de l'Académie nationale, le royaume a favorisé le développement d'académies provinciales, la culture et la langue de l'État central. Et à Toulouse, l'Académie des Jeux Floraux a été une des premières académies provinciales créées en 1691. Un peu plus tard, pour compléter le caractère très spécialisé de cette académie et de la poésie, la dimension poétique, fut fondée par lettre patente de Louis XV en 1746, de Louis XV, hein, sur le droit, l'Académie des sciences et sciences de l'Aide de Toulouse, plus généraliste. Et fait intéressant, au XVIIIe siècle, Toulouse était la seule ville française, la seule de deux provinces à posséder deux académies, ce qui confirmait sa dimension culturelle qui avait été reconnue antérieurement quand on parlait de Toulouse la Palladienne. En 1793, la Révolution supprime toutes les académies et confisque leurs biens. C'est l'abbé Grégoire et le peintre David qui sont à l'origine du décret. Le peintre David furieux parce que les académies ne reconnaissaient pas ses œuvres. Mais l'éclipse est de courte durée. Les académies se rétablissent rapidement. Et le 19e siècle est un âge d'or où les académies elles se multiplient, leur prestige s'accroît. À la fin du 19e siècle, une date très importante pour nous est 1898. C'est l'année où nous installons dans ce magnifique hôtel de la César, à la suite du legs du bâtiment par le banquier Eusen à la mairie de Toulouse, sous Réver Express, qui accueille les académies sous savantes en devenant le palais général. Et nous y sommes installés donc depuis plus d'un siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, après les Trente Glorieuses, l'intérêt pour les académies diminue. Certaines déclinent, certaines même disparaissent. D'autres s'adaptent, comme la nôtre, qui demeure très vivante, très active, et qui s'inscrit aujourd'hui à la fois dans la tradition et dans la modernité. Alors, qui sommes-nous ? Eh bien, notre académie comprend 50 membres titulaires, 30 de la classe des sciences, 20 de la classe des inscriptions des lettres. Et un nombre à peu près équivalent de membres correspondants, de membres étrangers. À la sphère universitaire, pour trois quarts d'entre eux, un quart correspondant à des représentants des entreprises, des organismes d'État ou de l'industrie. Nous couvrons une très large palette disciplinaire, les sciences, la médecine, l'histoire, les lettres, l'art, l'économie. Et je voudrais exprimer ma considération à mes collègues, à mes confrères et consoeurs pour cette force intellectuelle collective qu'ils représentent. nous avons eu parmi nos membres des célébrités, on les cite toujours, on les met à l'avant. Je parlerai du temps présent en indiquant que nous avons parmi nos membres le prix Nobel dans le Tirol et actuellement le président de l'Académie nationale des sciences, l'Institut de France, qui est le chimiste Bernard Mendel. Notre gouvernance relève d'une équipe de direction comprenant le président et le directeur qui sont élus pour 2 ans, le directeur également systématiquement président pour 2 ans, du secrétaire perpétuel qui assure la continuité de l'action sur la durée et d'un trésorier. Et les décisions, les orientations sont prises en compte. Alors, quelles sont nos activités? Nos activités se développent selon 3 axes majeurs. Le premier, c'est celui de la production de connaissances. Nous produisons des rapports, des analyses, des synthèses qui sont présentées oralement dans nos séances internes et qui sont ensuite rassemblées dans les mémoires de l'Académie, qui sont publiés annuellement. Le deuxième axe, qui est peut-être le plus important, sans doute le plus important, c'est celui de la diffusion des connaissances, de la diffusion des savoirs auprès du grand public, à travers 3 formules qui sont complémentaires. L'une qui est déjà ancienne, qui est classique, c'est les mardis d'ACESA, où des conférences sont prononcées sur des sujets extrêmement variés, dans les domaines littéraires et les domaines scientifiques. La deuxième formule est plus récente, c'est celle que nous appelons les grandes ouvertures. Elle est développée en partenariat avec l'Université Paul Sabatier et sur le thème les frontières de la science. Et dans ce cadre, 3 intervenants sont impliqués, croisent leur regard sur des sujets variés. Nous avons eu une conférence récente sur le développement inattendu des lasers. La prochaine conférence des grandes ouvertures sera sur l'impact des recherches dans le domaine de l'agriculture durable. Et un dernier point dans ce domaine de la diffusion des connaissances sont nos colloques. Nous organisons annuellement 1 ou plusieurs colloques. Nous avons organisé l'an dernier 2 colloques. Un à l'occasion du centenaire de la guerre de 14 sur le développement de la guerre de 14 dans notre région et un autre sur le numérique. Cette année, en 2015, nous organisons un colloque sur les relations entre l'État et les entreprises, un siècle d'évolution. Au-delà de ce deuxième niveau de diffusion des connaissances, nous avons une forte activité dans le domaine de l'attribution de prix à des jeunes diplômés méritants, généralement au niveau à des jeunes docteurs, dans les différentes disciplines littéraires et scientifiques. Également, nous décernons 20 de prix. Et cette initiative est fortement appréciée, à la fois par les lauréats, mais aussi par leur environnement, leur famille, leurs tuteurs. Elle reconnaît, elle salue le mérite et l'excellence, après une période où ce type de reconnaissance a été taxé négativement de certains élitismes. Maintenant, on retrouve de l'intérêt pour cette formule. Et enfin, dans nos activités, nous essayons, autant que faire se peut, de participer aux activités locales organisées par les collectivités. Nous avons fortement participé à la Novella ces dernières années. Nous nous intégrons, nous nous positionnons comme acteurs, maintenant dans le cadre du Quai des Savoirs qui se met en place. Voilà, alors, quels sont nos atouts et quelles sont nos limites? Nos atouts, je les situerai à 3 niveaux. Le premier, c'est que nous sommes héritiers d'une longue et prestigieuse tradition, que nous ne valorisons peut-être pas suffisamment d'ailleurs, qui se concrétise en particulier par un fonds documentaire extrêmement riche, une bibliothèque de plus de 50 000 ouvrages, l'archive extrêmement intéressante, ce qui nous permet, dans certains cas, d'apporter un éclairage original sur certains problèmes. Tradition. Deuxième point, notre pluridisciplinarité. Notre compagnie, je vous l'ai déjà dit, renferme des compétences très diversifiées. Ceci nous permet de croiser les regards, d'apporter des approches transversales sur des problématiques diverses à un moment où cela paraît de plus en plus nécessaire. Et enfin, notre troisième atout, je pense, c'est notre indépendance. Nous sommes tout à fait indépendants des pouvoirs politiques, religieux, des différents lobbies. Et nos membres, qui sont généralement dégagés des enjeux de pouvoir, peuvent porter un jugement pertinent, avec sérénité, recul sur différents problèmes, et aussi proposer des capacités d'expertise. Notre limite principale, à mon sens, est le corollaire de notre indépendance. C'est-à-dire que nous manquons cruellement de moyens. Nous n'avons aucun personnel, pas de part secrétariat. Nous fonctionnons sur l'activité bénévole de nos membres. Et ceci est effectivement un point limitant de notre action. Mais nous ne manquons pas de détermination et d'engagement pour poursuivre nos différentes activités. Parmi ces activités, une qui nous paraît prioritaire, c'est celle de la diffusion des savoirs. Parce qu'actuellement, les savoirs s'accroissent très rapidement, évoluent, et la société aussi entre parfois émerveillement et inquiétude, ou encore entre espoir et fantasme. Et donc, c'est de la responsabilité de l'institution comme de la nôtre d'éclairer le public avec rigueur, avec mesure, avec cette vision transversale dont j'ai déjà parlé. Et ce sera un de nos objectifs prioritaires, ainsi que celui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de nous insérer le plus étroitement possible dans la vie de la cité. Je vous remercie, M. le Président.